Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey.
Itinérance, une déambulation proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Pour parler avec les gens.
Bonjour, bonjour à tous. Au fil de l'eau, Nîmes est une ville d'eau, c'est le thème des expositions de tout cet été. Et aujourd'hui, nous commençons par le Musée des Beaux-Arts avec Barbara Gouget. Bonjour Barbara.
Bonjour.
On attend le vernissage, on attend l'artiste contemporaine, elle va pas tarder à arriver. Et vous avez intitulé cette exposition « Lumière au pluriel et ténèbres au pluriel, la fascination de l'eau ». Vernissage le 17 avril et ça termine le 17 novembre. Voilà. Donc on passe du féminin à l'eau. C'est l'éclectisme du travail d'une conservatrice, c'est ça ?
Oui, c'est à la fois l'éclectisme, mais en même temps c'est aussi répondre à des thèmes importants pour le musée, pour la ville et puis des sujets qui s'inscrivent en fait dans des sujets de société très actuels.
Alors tous les musées de Nîmes sont concernés, mais à chacun son temps. Je sais qu'il y a tout un programme de visite, on va sur le site, on ne va pas donner les détails pratiques. Je vois qu'il y a une nuit de l'eau le samedi 27 juin, et puis toutes les conférences. Donc voilà, prenez vos renseignements et puis venez nombreux. Alors, est-ce que vous n'avez utilisé que ce qui est dans le musée ou est-ce qu'il y a des prêts, est-ce qu'il y a... Un peu de tout.
Alors, pour cette nouvelle exposition, on a des prêts extérieurs. Alors, il y a évidemment des œuvres de nos collections. C'est très important pour nous, à chaque fois, de faire parler nos propres œuvres, de montrer la richesse de nos collections.
Qui sont toujours exposées ou dans les réserves ?
Certaines étaient dans les réserves. Certaines ont même été restaurées juste pour l'occasion. Donc, elles n'étaient pas sorties depuis longtemps. Donc, elles ont pris un petit coup de gêne. Et puis, voilà, d'autres sont des prêts pour compléter, en fait, notre fonds. Pour ce thème.
Alors, comme tous les musées sont concernés, comment vous avez accès, vous, lumière et ténèbres, le tout au pluriel ?
Alors, nous, on est un musée de beaux-arts, donc l'objectif, c'était quand même de rester dans ce qu'on attend d'un musée de beaux-arts, la beauté, l'esthétisme, l'histoire de l'art, voilà, retraverser le temps à travers ce thème. Mais ça n'empêche pas d'avoir des échos, évidemment, vers les autres musées, puisque le Musée des Beaux-Arts de Nîmes va avoir des collections en lien avec le territoire, en lien avec notamment la Fontaine Pradier, ce type d'éléments qu'on va pouvoir peut-être retrouver par exemple au Musée du Vieux-Nîmes.
Oui.
Mais aussi, on parle évidemment, notamment dans un thème source et ressources, on parle de l'eau comme source de vie, donc évidemment ça peut faire écho également au muséum. Donc voilà, il y a des liens qui se créent. Mais c'est vrai que nous, on est vraiment partis sur l'idée de cette fascination de l'eau par les artistes à travers le temps, à la fois un côté très imaginaire de qu'est-ce qu'on peut trouver sous l'eau, le côté plutôt ténèbres, jusqu'à arriver à cette fascination de la beauté de l'eau et du lien entre l'eau et la lumière.
Alors c'est vrai que Nîmes est une ville d'eau, bien qu'il n'y ait pas de fleuve ou de rivière qui traverse la ville, mais il y a le canal de la Fontaine. Mais... ça m'a un peu surpris ce titre, Nîmes, ville d'eau, parce qu'en fait c'est la nymphée, c'est les fontaines, c'est... J'aurais pas appelé Nîmes, moi, ville d'eau, pour moi, c'est...
Alors pour vous, d'un point de vue des sources, des canaux, de tout ce qui s'y passe, c'est une ville d'eau, c'est une ville où l'eau est très importante.
Les inondations.
les inondations aussi, mais ça en fait partie, ça fait partie des questions, des problématiques de la ville. Donc si, c'était important de replacer ce problème qui est un problème actuel, quotidien et qui est très présent à la ville de Nîmes.
Alors c'est vrai qu'il y a l'Aquamuséum au Musée d'Histoire Naturelle et de Préhistoire, il y a la Camargue au Musée des Cultures Taurines, il y a les résurgences, puisque là j'ai choqué en disant pour moi c'était pas une ville d'eau, donc honte à moi. J'ai appris en arrivant à Nîmes le mot cadéro, que je ne connaissais pas, n'est-ce pas ? Et puis, il y a au Musée de la Romanité, dans les yeux de Neptune, le dieu de... J'aurais dû y penser que c'était une ville d'eau dans la Romanité. Alors, il y a... vous parlez pas de salle, vous parlez d'espace. Et je vois qu'il y a un espace vidéo avec Sophie Kahl. Ça vous semblait évident ?
Oui, en fait, assez rapidement, et je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César. C'est en discutant avec mes collègues, et notamment avec ma collègue régisseur d'œuvre, Véronique Boccaccio, et assez rapidement, elle a repensé, elle m'a dit « Mais j'avais vu une œuvre magnifique de Sophie Calle, on a retravaillé ensemble, et par un heureux hasard, ou pas, parce qu'ils ont une collection très belle, il se trouve qu'une partie de cette œuvre-là est conservée, en fait, par le Carré d'Art musée. Et ça nous a paru comme évident de pouvoir le proposer là-dedans, cet espace-là.
Dans l'espace vidéo. Oui. Alors, l'espace 1, c'est « Monstres et tempêtes entre réel et imaginaire », ce dont vous avez déjà parlé. Mystérieuse, insaisissable, etc., etc., etc. Vous avez fait un très joli catalogue et ça doit être compliqué de choisir pour ce catalogue une reproduction d'œuvres d'art. Je vois pour « Monstres et tempêtes entre réel et imaginaire », vous avez mis... C'est Firmin Girard, c'est ça, oui. Ulysse et les sirènes.
Ça nous a semblé assez représentatif du thème et de l'exposition. Et puis, les sirènes, c'est une figure parlante et en même temps une figure assez méconnue. Donc, chacun va penser à sa sirène. Il y en a de nombreuses et on sait qu'elles ne sont pas toutes les mêmes. Il faut souvent s'en méfier.
Alors, les sirènes, et puis il y a... Il y a l'inverse, parce que les sirènes, on pense qu'elles sont gentilles. Enfin, pas toujours, les sirènes.
Absolument pas.
Avec Ulysse, il a
notamment, et pas qu'avec Ulysse, donc c'est vrai que...
Mais c'est vrai que dans l'imaginaire, la sirène, c'est un personnage un peu...
Alors, on pense à la petite sirène, finalement, qui est présentée dans un ouvrage dans l'exposition. Mais en dehors de la petite sirène, dans l'ensemble...
C'est plutôt des êtres malfaisants.
Les sirènes sont des êtres malfaisants, c'est des êtres attirants... qui nous plonge en fait justement dans ces ténèbres, donc qui correspondent assez bien parce que on ne les appelle pas forcément monstres parce que souvent elles sont représentées très belles, ces sirènes, mais finalement quand on regarde la littérature, les sirènes, elles ne sont pas que belles, elles peuvent avoir des ongles très crochus, elles peuvent avoir des regards un petit peu profonds et malicieux, il y a de tout dans les sirènes.
Ah, vous voyez, comme l'imaginaire, puisque vous parlez d'imaginaire, c'est vrai que... Donc, en fait, on s'instruit en voyant On regarde, on voit de la beauté, mais on s'instruit aussi.
Tout à fait. Et par exemple, on a un prêt, notamment du Musée de la Romanité, avec les représentations de sirènes, où là, c'est des animaux volants, en fait. Donc, la sirène, vraiment, cette représentation a énormément évolué. Oui. Et c'était intéressant pour nous, justement, de voir l'évolution de cette représentation et de ce qu'on en dit.
Mais vous cassez un peu nos imaginaires. C'était voulu ou pas voulu, je ne sais pas. Alors, l'espace 2, c'est sources et ressources, l'eau salvatrice.
Oui.
Alors, salvatrice dans quel sens? Médical, plutôt spirituel, le baptême,
enfin, alors, justement, on a voulu créer un lien entre trois thèmes qui, a priori, n'ont pas forcément de lien. Donc, le thème du quotidien, le thème mythologique et le thème, notamment, biblique. Mmh. Puisque dans tous ces thèmes-là, on retrouve vraiment cette eau qui est essentielle à la vie, cette eau qui est signe de naissance, qui est signe de renaissance, de purification, et qui s'adapte en fait à énormément de sujets. Et donc, on a créé comme ça des liens, que ça soit entre vraiment un baptême du Christ, des lavandières, tous ces liens-là qu'on a créés.
C'est très général, en fait. On peut se laisser aller...
Exactement.
Et puis découvrir des éléments auxquels on n'aurait pas pensé.
Oui.
Il faut que nous se reprendre.
Alors, le but, quand on fait des expositions... Alors, évidemment, je parle d'esthétique, c'est beau, c'est relaxant, mais c'est aussi de se poser des questions.
Bien sûr. Et puis après, continuer un petit peu à réfléchir, à chercher. Et puis, vous voyez, dans le petit catalogue que vous avez édité, par exemple, Laurence P. Aigul, je ne connais pas du tout... Et vous l'avez mis dans Les Baigneuses.
Tout à fait.
Donc, il a vécu 19e-20e siècle. Vous définiriez comment ce tableau par rapport à... Moi, Les Baigneuses, je pense à Renoir tout de suite, mais c'est pas la même époque.
Oh, on est pas si loin.
C'est pas si loin.
On est dans des thèmes assez... Les Baigneuses, vraiment, fin 19e, début 20e, c'est un thème qui a été énormément repris. Alors, ça fascine par le corps de la femme, mais ça fascine notamment, puisque fin 19e, on se réinterroge sur qu'est-ce que peut apporter la peinture, notamment. Donc, on va travailler sur la touche de couleur. Et donc, c'est là où on va s'intéresser énormément justement à ce sujet de la lumière. L'eau va prendre une place très importante. Et donc, les peigneuses entre ce corps de la femme et en même temps cette fascination de la lumière et de ses reflets est vraiment très, très, très représentatif de cette période-là, de la fin du 19e, début 20e.
Sur Radio Alliance Plus, nous continuons avec Barbara Gouget, notre itinéraire dans les salles du musée, dans le catalogue également. Et il y a l'aspect utile de l'eau, les lavandières au bord du Lot. Moi, je connais les très, très, très vieilles photographies au Pont du Gard qui sont magnifiques, des lavandières au Pont du Gard. Là, vous avez choisi, alors pareil, je ne connais pas, Sarkis d'Iranian, Istanbul. Et c'est très beau, hein. C'est très, très dynamique tout en étant très, très esthétique.
C'est une œuvre très esthétique, assez apaisante pour un thème qui pourtant parle d'un quotidien assez difficile, assez dur. C'est une œuvre en plus de grand format, donc on remercie le musée de Cahors de nous l'avoir prêtée. Les tons en plus sont assez pastels, c'est une œuvre très douce. Qui se marie très bien avec l'ensemble et qui permet justement de montrer le nouvel intérêt des artistes pour ces sujets du quotidien, mais qui finalement rejoignent des sujets beaucoup plus historiques avant de ce rapport à l'eau.
Donc il y a de quoi faire et les artistes, vous le dites dans l'espace 3, donc après Sophie Kahl, effet au pluriel et reflet au pluriel, une beauté fascinante, l'eau est un sujet d'expérimentation visuelle multiple pour les artistes. Et là, vous avez choisi Canaletto. Oui. C'était Venise, bien évidemment. Et c'est une ville qui vit sur l'eau, qui a été construite sur l'eau. Donc, les aspects sont très variés, en fait, dans ce
Oui. Ouais. Alors, c'est pas pour rien, par contre, qu'on a choisi cette œuvre-là en particulier. Quand on parle de l'eau, les artistes ont énormément voyagé et l'Italie, et notamment Venise, est un point crucial dans leur grand tour. Et je pense que c'est peut-être Venise qui a inspiré le plus de représentations sur l'eau, puisque c'est la ville d'eau par excellence dans laquelle se reflètent tous les monuments. En plus, c'est une ville très ancienne, avec y a toutes ces moulures, ces couleurs un peu ocre. Donc, vraiment qui offre cette palette assez extraordinaire à de nombreux artistes. Et dès le XVIIIe siècle, Venise va prendre une place centrale dans ces sujets et va inspirer de nombreux peintres par la suite.
C'était le grand tour d'Italie et il fallait bien sûr, avant Rome, passer par Venise. Alors on a vous parlé, merci beaucoup Barbara, de beaucoup d'aspects. Là, je me réfère aussi à un autre tableau. là qui est la mer, parce que quand on parle de l'eau, elle peut être salée. Promenade matinale de Gontran Paranque, il est de Port-de-Bouc. Ah, donc c'est régional. Et c'est au musée SIEM de Martigues. Et c'est bien de parler de la mer, je trouve.
L-E-R. On parle beaucoup de la mer. Et justement, dans ce dernier espace, on a une grande partie des œuvres qui sont dédiées finalement à des paysages régionaux. Donc, on va pouvoir retrouver des paysages connus. Et on parcourt comme ça un petit peu le pourtour méditerranéen à travers ces différentes œuvres, puisque bien sûr, grands pays, des grandes villes comme Venise ont inspiré, mais nos artistes régionaux ont eu de nombreuses sources d'inspiration dans la région. Alors, évidemment, la mer, mais il y a aussi des lacs, voilà, il y a différents éléments.
Mais il y a un peintre ukrainien, Alexandre Altman. Donc c'est une autre vision. On se demande si c'est de la neige ou si c'est de l'eau.
Alors c'est de la neige, puisque quand on parle de l'eau, on pense tout de suite plutôt justement liquide, à liquide. Et ce n'est pas le cas. Donc il y a quelques représentations de neige et également de pluie. Donc c'est vraiment l'eau sous toutes ses formes. Et pour raconter justement l'aspect très poétique qui est relié à l'eau.
Alors, c'est très varié parce qu'il y a les Danaïdes et puis il y a Lorelai. Hein, on ne peut pas faire une exposition sans Lorelai. On ne peut pas parler de... Enfin, on ne peut pas faire une exposition sur l'eau sans la Lorelai. Et je vous propose une seconde pause musicale. Nous avons la chance de recevoir Alice Boileau, artiste contemporaine, mais très ancrée sur l'Antiquité, puisque vous vous définissez comment ? Sculptrice, verrière, performeuse, artiste ?
Artiste, ce qui me permet d'inclure à la fois la sculpture, la performance, la vidéo. Voilà, je n'ai pas de médium de prédilection.
D'accord. Et votre cheminement, c'est quoi ? C'est des études classiques ?
J'ai fait les arts décoratifs à Paris. Et ensuite, j'ai fait à la fois des collaborations, à la fois des pièces de mon côté.
Et alors, quand le Musée des Beaux-Arts, quand Barbara vous a sollicité pour participer à Lumière et Ténèbres, la fascination de l'eau, c'était évident qu'elle faisait allusion au lacrymatoire ou c'est vous qui avez choisi ?
Il y a beaucoup de pièces qui sont liées à l'eau, surtout dans les dernières années. En fait, j'ai fait une année de résidence à la Villa Médicis où mon sujet était la relation entre l'eau et le sacré. Et donc, de là ont émergé un certain nombre de pièces. Et Barbara avait repéré à la fois les lacrymatoires et la performance qu'on présentera samedi.
Vous les travaillez vous-même ? vous avez des assistants, des assistantes?
Non, j'ai pas d'assistant ou d'assistante, mais j'adore travailler avec des artisans, artisanes qui ont un savoir-faire que je n'ai pas. Mmh. Et donc, en l'occurrence, je me suis tournée vers un tourneur sur bois à qui j'ai confié du sel. Donc, cette fois-ci, au lieu de tourner du bois, il a tourné des blocs de sel avec un dessin que je lui ai confié en même temps.
Donc, vous assistiez à la naissance de l'œuvre et vous étiez surprise ou ça correspondait à ce que vous attendiez ou...
J'étais assez surprise parce que, en fait, le sel, j'aime. Je pensais qu'il serait uniforme. Et en fait, il est hyper matiéré. Donc, chacun des huit lacrymatoires est très différent puisque, évidemment, chaque morceau de sel est différent. Mais parfois, on anticipe certaines choses et d'autres apparaissent par surprise.
Donc, quel rapport personnel vous avez à l'eau? Barbara Gouget nous a parlé de tous les aspects de ces expositions. En plus, il y a tous les musées de Nîmes. Mmh. Donc là, on est au Musée des Beaux-Arts. On a parlé de combien les artistes étaient inspirés par l'eau. Vous, ça, qu'est-ce qui vous inspire? C'est plutôt la mer? C'est plutôt la glace? C'est plutôt... moi, je ne sais pas, les sources, les torrents?
C'est plutôt l'eau horizontale. Donc plutôt la mer, plutôt le lac, et en même temps, là c'est les larmes. Il y a aussi eu, j'ai travaillé avec la neige, j'ai travaillé avec la glace. Je crois que ce qui m'intéresse, c'est qu'elle elle est rarement la même pendant très longtemps. Elle bouge sans arrêt, elle a un lien, elle est impermanente, quoi. Et je crois que pour un artiste, travailler avec l'impermanence, c'est assez intéressant.
Elle vous fait peur, l'eau, ou elle vous rassure, ou elle vous...
À la fois, elle m'apaise, à la fois, elle me terrifie. J'aime beaucoup la mer, mais ouais, si je tombe d'un bateau, je ne serais pas très rassurée.
Et alors, dans l'exposition, comment vous... J'allais dire le résultat, comment vous vivez un peu cette intégration à cette exposition par rapport à toutes les œuvres qui sont présentées?
Ben, moi, j'aime beaucoup le dialogue qu'il y a entre nos aînés, on va dire, et les pièces plus contemporaines. Je trouve que ça résonne, la façon dont Barbara a placé les colliers. Il y a les lacrymatoires et il y a des colliers avec des faits en perles de sel, des parures. Et donc, la façon dont les parures dialoguent avec le reste de l'exposition, les lacrymatoires avec les balsamères, antique aussi, c'est un dialogue qui m'intéresse, quoi, que je trouve assez joyeux à regarder.
Vous avez découvert des œuvres, parce que quand je feuilletais avec Barbara le petit catalogue, et il y a plein d'artistes que je ne connaissais pas.
Il y a des découvertes.
C'est un peu le but, c'est toujours, c'est toujours un enrichissement. Alors après la troisième musique choisie par Alex Boileau, qui sera l'objet donc d'un d'un concert, hein, parce que l'eau, on a mis trois musiques choisies par toutes les deux. L'eau, c'est vrai, on le disait, ça apaise, ça terrifie. Donc c'est Grace de Jeff Buckley qui sera jouée donc où à la Fontaine Pradier, c'est
ça? À la Fontaine Pradier, c'est une batteuse qui joue la partition de Grace et que j'ai choisie parce qu'on dit que Grace est un morceau prémonitoire à la noyade de Jeff Buckley. Et il y a beaucoup d'eau, il y a de la pluie, il y a des larmes et donc il y a cette noyade à venir contenue dans le morceau.
Alors, merci à toutes les deux. Et Barbara, on a parlé de Beaux-Arts, mais on parle aussi de musique, on parle de visites guidées, on parle d'ateliers. C'est un musée qui vit, hein.
On essaye, en tout cas, de le faire vivre. Donc oui, il y a beaucoup de visites guidées, il y a des ateliers, et il y aura aussi, à partir de l'automne, toute une des séances de méditation, de yoga, une table ronde sur prendre soin dans les musées. Voilà, donc c'est aussi cet aspect-là de l'eau qu'on a voulu mettre en avant. Et il y aura également des déambulations, des danses, des concerts, voilà. Voilà, une programmation qu'on espère très riche et variée. Et qui
la culture plus pour plaire à tous, en fait, et pour amener des gens qui peut-être ne viendraient pas uniquement pour voir des tableaux.
Mais... Oui, puis c'est surtout pour sortir de l'aspect très fermé qu'on peut avoir du musée. Et en fait, on travaille avec d'autres types d'art. Et moi, j'aime bien les mélanges. Donc, je trouve ça important.
Alors, il y a une marquée exposition d'été. Mais en fait, le 17 novembre, on n'est plus en été. Hein. Donc, c'est pour ça que vous parlez aussi de la programmation d'automne.
Exactement.
Comme vous disiez, Alix, l'eau, elle est permanente. Hein, donc,
C'est un cycle. Donc, effectivement, l'automne arrive après l'été.
Eh oui, ça aussi. Merci à toutes les deux.
Merci à vous.
Merci.
Avec les gens.